Vous écoutez Thanatoscope par Résonance.
Je m'appelais Roméo. Après ça, on ne s'est plus donné la peine de me nommer. J'avais bien assez de noms avec lesquels me désigner pour m'en donner de nouveaux. À l'époque de Roméo, je menais une vie banale, fade, paisible, sans intérêt, heureuse, monotone, parfaite. Et puis l'épidémie a commencé.
Un phénomène étrange se propage dans la population. Des milliers de citoyens...
J'ai été touché très tôt. Le premier, peut-être. Ça a commencé par des cauchemars. Ma voix a changé, mon corps aussi. J'étais tantôt grand, obèse, minuscule, musclé, une femme fière, un homme au menton fuyant. Mes cheveux prenaient des teintes plus ou moins saturées, du blanc total au noir le plus sombre. Je parlais allemand, cantonais, anglais, swahili, mongol. Une quantité informe de langues que je n'avais jamais apprises, mais que je comprenais. Et dont je me rappelais quelques bribes au réveil. Je me réveillais terrifié. Les images que j'apercevais me faisaient craindre de me rendormir à nouveau. D'autres me faisaient vivre comme un roi. Mais même avec ces rêves-là, je me réveillais avec un goût métallique en bouche. Ils ne compensaient pas tous les autres cauchemars. Les visions d'enfants égorgés, les têtes décapitées, perchées sur des lances, les femmes hurlant alors que je les... Les rêves étaient initialement sporadiques. Mais plus le temps passait, et plus ils étaient présents. Et moins ils étaient assoupis. Des images se superposaient à la réalité partout où j'allais. Des hurlements déchiraient mes tympans dans la plus silencieuse des campagnes. En allant faire des courses, je me voyais poignarder un bébé devant sa mère en pleurs. Au travail, je m'apercevais piller un village. En vacances... Je m'observais ordonner un génocide, le sourire aux lèvres. J'ai commencé à voir des psys. Psychologues d'abord, puis des psychiatres. Aucun d'entre eux ne pouvait m'obtenir une réponse concrète. Je n'étais pas schizophrène. Je n'étais pas dément. Et je n'avais jamais pris aucune drogue pouvant provoquer des hallucinations. Je n'avais aucun autre symptôme que ces visions. Et peut-être l'anxiété que la situation me provoquait. Ils me regardaient d'un air désolé. Elle me disait qu'il ne pouvait rien pour moi. On me prescrivit des médicaments pour l'anxiété, mais ça ne suffisait pas. Mes cheveux tombaient par poignées tant j'étais angoissé par ce phénomène. Je ne dormais quasiment plus, par crainte de découvrir de nouveaux actes de barbarie dont je n'avais pas encore conscience. Mais alors que l'épidémie se propageait et que les scientifiques du monde entier commençaient à se faire une idée de ce qui se passait, les regards se durcissaient, se faisaient plus froids. Et après quelque temps encore, ils devinrent haineux. Je renonçais à l'idée de me faire soigner. Et puis, l'OMS annonça les résultats de son enquête, confirmant la théorie qui commençait doucement à se former dans mon esprit réticent.
Nos études et recherches ont mené à une conclusion. La pandémie, touchant le monde entier, pousse les personnes touchées à se remémorer leur vie passée. Nous n'avons pas encore trouvé de remède, ni la cause de ce phénomène, mais l'OMS investit...
Ce n'était pas des cauchemars ou des hallucinations, c'était des souvenirs. Et j'établissais un terrible constat. Ma vie en tant que Roméo était la première et unique vie décente que j'ai jamais menée. Au fil des millénaires, j'avais été tueur en série, bourreau, dictateur, violeur sadique, gourou de secte, général d'armée, gangster sans pitié, garde zélé. Chaque ignominie possible, je l'avais commise. J'avais été l'instigateur ou avait activement participé aux périodes les plus sombres de l'histoire. Pas une seule de mes vies précédentes n'avait été bonne. Pas un seul de mes prédécesseurs n'avait quitté sa vie sans ennemi. Et le reste du monde commençait à s'en rendre compte. Le journal télévisé s'extasiait devant ses amants séparés lors du massacre de Nankin et qui s'étaient retrouvés voisins dans un charmant petit village de Finlande dans leur vie actuelle. Des adolescents réalisaient qu'ils avaient peint dans des grottes ensemble durant le néolithique. Et un couple se séparait parce qu'ils réalisaient qu'ils avaient été mère et fils en Grèce antique. Des langues disparues revenaient, Des trésors historiques étaient redécouverts. Des traumatismes étaient rouverts. Mais personne d'autre que moi ne semblait accumuler les torts. Bien sûr, je n'étais pas le seul monstre que la Terre ait porté. Pour un Hitler, des milliers de bourreaux nazis avaient été prêts à faire du zèle, hein. Mais personne d'autre n'avait été monstre de vie en vie. J'étais comme programmé pour cela. Jusqu'à Roméo. Mon unique vie innocente. L'unique vie horrifiée de mes actes ante mortem. Je n'ai pas attendu les rétro-condamnations pour essayer de m'enfuir. Croiser des gens était déjà trop dangereux. On se reconnaissait désormais. Nos visages antérieurs se superposaient à nos visages actuels. J'avais tué, torturé, violé au moins une fois chaque personne que je croisais. Souvent plus. J'ai réussi à vivre un mois en total isolement dans la montagne avant qu'on me trouve. Le monde entier était à mes trousses, à exiger vengeance. Roméo fut tué presque immédiatement. Déchiré, épiétiné et démembré par une foule enragée et frénétique. Les ongles traversaient sa peau. Les dents arrachaient ses muscles. Il me fallut une demi-douzaine de vies après cela, pour ne pas être systématiquement lynché par une foule furieuse, à la seconde où mes vies précédentes se manifestaient, et pour que je sois emmené devant le tribunal des rétro-condamnations. Cette vie-là avait réussi à atteindre l'âge de 5 ans. Presque hardcore. À cette époque, le système était désormais bien rodé. De nombreuses personnes payaient pour leurs erreurs passées. Et si le procès dura longtemps, c'était pas pour juger de ma culpabilité déjà établie. Non. Il fallait en réalité calculer le nombre d'années durant lesquelles je devrais purger ma peine. Mais finalement, lassé de compter et devant le caractère exceptionnel de ma situation, les jurés renoncèrent à donner un chiffre. Ils annoncèrent que je devrais être puni jusqu'à la fin de l'humanité. C'est long, la fin de l'humanité. Leur souvenir les a poussés à apprendre l'empathie. Il n'y a plus de guerre, plus de viols, plus de massacres. Ils ont appris à respecter la planète et ont créé un système permettant d'éliminer la pauvreté. Ils ont trop peur que leurs actes ne les impactent dans leur vie future. Ils ont trop peur d'être rétro condamnés, eux aussi. Et ils ont un ennemi cathartique sur qui concentrer leur haine. Moi. Ils prolongent mes vies autant que possible. Mais à chacune de mes morts, ils me retrouvent presque immédiatement. Ils recherchent chaque maternité, chaque hôpital, chaque dispensaire. Je deviens la menace qui plane sur chaque grossesse, chaque futur parent pris pour que je ne meure pas au moment de leur accouchement. Chaque jour est jour de vengeance. Je suis devenu un pèlerinage, la catharsis des violences humaines. Une attraction même. Des parents viennent avec leurs enfants pour assouvir leur pulsion de justice. On m'arrache ongles, cheveux, peau. On me brûle, on m'enfonce des pieux dans les yeux. On me coupe des membres. On expérimente des médicaments, des formules chimiques. De mes naissances à mes morts, je n'ai de répit que ce que les médecins recommandent pour me maintenir en vie. Je sens l'amertume grandir en moi. À travers mes vies, à travers chaque torture, ma motivation s'accentue. Chaque jour, je repère des failles, des fissures dans un mur, un manque de sécurité, une lueur de pitié dans un regard. J'accumule des objets pouvant m'aider, soigneusement dissimulés à travers ma prison. J'écoute chaque conversation pour pouvoir me servir. D'une façon ou d'une autre, je me traînerai hors de cette cage. Je m'enfuirai et je mettrai fin à ma punition. Je redeviendrai le méchant qu'ils ont tant réclamé. J'apporterai la fin de l'humanité.
Cet épisode a été écrit, réalisé et produit par Cyprien Ligère, avec Axel Brugerolle de Frécinette, Fanny Primatesta et Laura Moati. Ingénieur son, Mathéo Hennel et Alban Tavernier.
Monteur et mixeur son, Quentin Gerfaux et Nicolas Momus.
Casting et direction d'acteur, Axel Brugerolle de Frécinette. Script, Cassiope Boyaval. Assistant à la réalisation, Majdal Samori et Maïlis Bueb. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner et nous suivre sur Instagram, resonancepod.production.